18h, 19h, c'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U.
Et bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez bien, c'est vous qui le dites, la quotidienne de Radio U sur le 101.1. Le mois dernier, ou même on pourrait dire l'année dernière, car c'est très drôle à dire et que toute la rédaction de Radio U rigole à cette blague, l'année dernière, en décembre 2023, nous avions parlé plusieurs fois de Jérémy et de ses interviews qu'il avait réalisées au Transmusical. Et nous avons décidé pour la rentrée 2024 de les diffuser enfin. Enfin, on va pouvoir entendre ces belles interviews que Jérémy a pu faire là-bas. On ne va pas toutes les écouter durant cette heure parce qu'il y en a beaucoup. On en garde un petit peu pour la semaine prochaine. Ça vous donnera l'occasion de venir nous réécouter la semaine prochaine. Et sans plus attendre, je vais demander à mon ami de toujours, mon collègue de travail, Tilouane Tintin, s'il
c'est
peut,
moi.
C'est lui. Il va vous faire la présentation de cette émission. Je vais lui laisser le micro pendant cette heure. Et bah, dis-moi, Tintin, qui est-ce qu'on va pouvoir écouter en premier ?
Eh ben, en premier, on va pouvoir commencer avec une interview de Flore, qui est donc une artiste que Jérémy a interviewée au Transmusical.
Mmh. Eh ben, on va écouter ça tout de suite.
Bonjour à toi, Flore.
Bonjour.
Comment ça va ?
Ouais, ça va bien.
Nickel, pas trop stressé ?
Non, ça va.
Non, première Transmusical, tu me disais juste avant, c'est ça ?
Ouais.
Bon, comment ça se passe pour l'instant depuis l'arrivée ?
Ça se passe très bien, j'ai bien dormi hier, fait que ça commence bien. Là.
Ok, bon bah prêt pour ce soir alors. Je vais faire un petit récapitulatif un peu. Donc Flore, c'est ton nom de scène, c'est ça ?
Ouais, mais
ton
je m'appelle
nom,
Mathieu.
Mathieu, voilà, exactement. Tu nous viens tout droit du Québec, Montréal ?
J'habite pas à Montréal, mais
d'accord.
Ouais.
D'accord, t'es vers où au Québec ?
Je suis dans le Bas-Saint-Laurent, c'est-à-dire un petit peu plus vers l'est.
Ouais. D'accord, ouais, plus dans les terres.
Ouais.
Et tu es un musicien virtuose de formation, puisque justement tu as commencé le piano à l'âge de 5 ans.
Ouais.
5 ans seulement. Et tu as suivi des cours en conservatoire et aussi des études de musique en guitare classique, si je me trompe pas.
Ouais.
Tu viens ensuite en France au conservatoire de Bordeaux puis de Paris pour étudier l'harmonie et l'orchestration. Et c'est finalement quelque chose qui te définit bien aujourd'hui en tant qu'artiste, puisque tu mixes en direct et en impro avec le public, en t'accompagnant de ton synthé et surtout d'un orchestre à cordes, ce qui est un sacré mélange, il faut le dire.
Ouais.
Tu es aussi arrangeur et orchestrateur, notamment pour ta sœur, qui fait aussi de la scène sous le nom de Chloé Pelgag, je le prononce bien ?
Ouais, ouais.
Parfait. Tu as sorti pour l'instant deux albums, volume 1 en 2019, volume 2 cette année, et les deux tournent plutôt autour du thème de la nature. Nature dont sont très proches nos amis québécois, il me semble. Et ma première question, ça va être ça. Alors, enfin, 1, 2, 3. Tu construis aussi tes sons comme des paysages sonores, et il y a un lien entre la nature et ton nom de scène, si je ne m'abuse. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Ben, Flore Laurentienne, c'est le premier livre de botanique qui a été écrit sur les plantes indigènes au Québec. Donc, sur toutes les plantes qui poussent le long du fleuve Saint-Laurent. Donc, oui, effectivement, ma musique est très inspirée de la nature, des paysages qu'on retrouve là. Puis, justement, tu sais, j'essayais de trouver une simplicité dans le monde chaotique d'aujourd'hui. Donc, je pense que la meilleure façon de se retrouver, c'est juste d'aller dans la forêt puis de juste constater que les choses naturellement sont belles et sont... Donc, ça a été le point de départ de l'inspiration pour le projet musical.
Justement, je me posais cette question de ton rapport... à la musique et à la nature, et je voulais savoir, toi, quand tu créais tes musiques, comment est-ce que tu traduisais cette nature avec tes instruments ? C'est-à-dire, est-ce que tu travailles plutôt sur les instruments eux-mêmes, ou tu essaies de travailler plus sur une texture, ou est-ce que, je sais pas, tu pars d'une idée
Ben, Premièrement, j'aime beaucoup travailler avec des vieux synthétiseurs, donc des vieux Moog qui tiennent pas nécessairement l'accord. Okay. Donc c'est très pratique quand tu veux avoir un son de synthétiseur un peu plus organique. Comment je fais pour traduire? C'est sûr que c'est pas de la musique descriptive, tu sais, je mettrais pas des petits sons d'oiseaux puis des petits sons de vent, tu sais, ça réduirait le projet à une musique descriptive. C'est moi, je veux vraiment que la musique donne cette impression-là, mais de ne pas diriger l'auditeur trop spécifiquement vers un lieu, vers un type de plante ou un type. Je veux vraiment que l'auditeur fasse son propre chemin dans sa tête et que ce ne soit pas ni non plus que ce soit une formule, tu sais, que j'énumère comme dans un livre de botanique chaque plante ou chaque, tu sais.
J'avais vu un truc où tu disais que tu aurais aimé qu'on perçoive ta musique comme si elle avait pas été composée par un humain, finalement.
Ouais.
C'est de créer vraiment une ambiance.
C'est la première phrase, dans le fond, qui m'a allumé, parce que la première phrase du livre Fleur Laurentienne, c'est toute espèce de plante qui pousse le long des berges du Saint-Laurent sans la présence de l'homme. Donc moi, c'est vraiment ça qui m'a amené à prendre ce nom-là, parce que on est aussi dans un monde où quand on fait de la musique, la personnalité de l'artiste est presque plus ou sinon à égale importance que la musique en elle-même, tu sais. Puis moi, j'avais vraiment envie de ne pas me mettre de l'avant, mais plutôt que la musique prime sur tout le reste.
Ok. Et j'avais une seconde question par rapport à tes créations. Donc, il y a beaucoup d'orchestration, parce que tu as fait tes études dedans. Et je vois ça un peu comme une nappe qui englobe pas mal de choses. Mais je me demandais, comment est-ce que tu sais qu'un morceau est terminé, finalement?
Ah, tu le sens. Je pense que juste... c'est... Ouais, c'est juste comme un peu un peintre qui fait une toile, qui rajoute des couches, qui corrige des choses, puis à un moment donné, il fait juste dire « OK, c'est terminé ». Mais c'est un peu la même chose. Puis c'est, j'essaie de pas trop mettre d'informations dans une pièce. J'essaie que le matériel compositionnel reste très, très simple, mais que ce qui est plus complexe, c'est le rendu, tu sais. C'est pas le matériel en tant que tel, mais c'est plus la façon dont il est utilisé, tu sais. Ouais.
Tu m'as l'air d'être un grand contemplatif, un peu observateur. Ouais. J'ai vu aussi sur certains lives que donc tu choisissais pas tes lieux au hasard, tu as déjà joué notamment dans des églises, il me semble.
Ouais.
Ouais. Comment tu choisis les lieux pour que justement, parce que je pense que tu prends en compte aussi cette acoustique par rapport à ton rendu, comme t'expliquais.
Ouais.
Qu'est-ce que tu cherches, toi, comme acoustique? Comment tu...
Je pense que je suis pas rendu à choisir spécifiquement les lieux où je joue. Je suis plus rendu à... je suis plus dans une optique de « on va s'adapter au lieu dans lequel on joue ». On a joué dans peut-être une quinzaine d'églises, ou une vingtaine même, de toute taille et de toute forme, dont une cathédrale avec, je crois, 12 secondes de reverb. Donc là, c'est juste
c'est
qu'on...
C'est très reverb, là.
Ouais. Donc, c'est de... On ne peut pas jouer les pièces au même tempo. Et souvent, on ne joue pas les pièces qui ne fonctionneraient pas avec une acoustique comme ça. Puis notre musique, comprend toujours à peu près 20% d'improvisation. Donc, on a une structure de base dans les pièces, mais il y a plusieurs parties qui peuvent être ouvertes. Et donc, souvent, on ouvre dans ces parties-là, mais par rapport au lieu où on joue et aussi à la par rapport au public qu'on va avoir. T'sais, par exemple, ce soir, on va jouer à 10h30 devant des gens potentiellement un petit peu éméchés. Mm. On ne jouera pas la même chose qu'on jouerait dans une salle de concert de 300 personnes dans une ambiance très, très contrôlée, les gens assis puis tout, c'est ouais. sûr.
Ouais. Vous adaptez un peu votre improvisation ouais. en fonction du public. Et ça arrive que des fois, par exemple, tu partes sur une improvisation et tu sens que ça ne matche pas, tu vois, il y a un truc qui ne marche pas. Et dans ce cas-là, est-ce que tu vas au bout du truc ou est-ce que tu
improvises
finalement, tu essaies de récupérer?
Je m'en vais ailleurs, je tourne un coin puis j'essaie de où je skip une pièce puis on passe à une autre ou tu sais ouais, donc c'est sûr que faut que ce soit malléable, tu sais. Je pense qu'on est un projet d'influence classique, mais je voulais pas me réduire à jouer seulement dans des ambiances dans des salles où ouais. tout est contrôlé pour que le son soit parfait ou que les gens soient attentifs à nos nuances, à notre son, à notre, tu sais. Okay. Je pense qu'au Canada, on a la chance justement que la frontière entre la musique classique puis les autres musiques soit moins franche que qu'en France, en tout cas, où il y a la musique classique d'un côté, puis il y a le reste de l'autre bord, puis les deux mondes ne se parlent pas, là, tu sais.
C'est ce que tu as pu voir un peu dans tes études quand tu es venu en France, où tu as pu voir qu'il y a finalement une frontière plus large en France.
C'est très élitiste en France, la musique classique, puis donc c'est un peu vu... mal vu de mêler le côté plus rock ou le côté plus expérimental ou à un type de musique d'influence plus classique. Donc, voilà, moi je ne mets aucune limite au mélange des styles.
Ok. Bah, merci Flore Laurentienne, merci Mathieu de venir au micro de CELAB et on souhaite une bonne représentation ce soir.
Ça me fait plaisir.
Super. Au revoir.
Et donc vous venez d'écouter l'interview de Flore Laurentienne et pour se donner une petite idée de ce que ça donne, on va écouter sa musique au couchant. Et vous venez d'écouter Au couchant de Flore Laurentienne. Et on va continuer tout de suite avec l'interview de Jérémy aux trans de Down.
Et c'est parti, donc on est bien sur C-Lab. Et nous sommes avec Clément Grain et Mélissa Gex. Comment ça va?
Ça va bien, c'est le matin.
Ouais.
Deuxième matin à Rennes.
Un peu fatigué.
Bien fatigué, mais ouais. On est prêt pour ce marathon, donc on va pas dire qu'on est fatigué aujourd'hui.
Parfait. Un petit mot sur peut-être votre performance d'hier.
C'était extraordinaire et assez impressionnant de découvrir les halles dans lesquelles on joue, parce que c'est immense, vraiment. Hier, le public était pas forcément encore très nombreux, donc c'était un bon premier test pour qu'on puisse un petit peu appréhender la salle et prendre possession des lieux. Mais ce soir et demain, ça va être différent. Il y aura beaucoup de gens.
Eh ben, on vous le souhaite en tout cas. Alors, pour vous présenter, donc, vous êtes un duo composé corps batterie, présenté donc par Mélissa à la danse et à la chorégraphie, et Clément, batteur et compositeur. Donc, votre duo, il se nomme Down, et c'est un concert performatif. Alors Clément, toi t'es un peu un artiste touche-à-tout si j'ai bien compris, musicien professionnel, batteur, compositeur, tu fais partie du groupe Monument et aussi avec le label Humus, donc en Suisse. Et Mélissa, toi tu es donc suisse de base aussi, tu as fait des études de danse et de performance en partie à Bruxelles et tu es associée au théâtre Cévelin à Lausanne. Tous les deux voulez vous ouvrir un peu, si j'ai bien compris, à des nouvelles performances. Et vous êtes rencontrés, Mélissa, si je ne me trompe pas, c'était un coup de cœur lors d'un spectacle dans une casse où tu as rencontré Clément.
Exact.
Et vous êtes après recroisés, assez incroyable, en terrasse. Et vous êtes proposé de faire une journée d'impro, ce qui a plutôt bien fonctionné puisque vous aimez tous les deux l'impro. Et vous êtes intéressés ainsi à la discipline l'un et l'autre, l'un de l'autre, pardon. Et Mélissa, dans une autre interview, tu parlais, j'ai trouvé ça super intéressant, de territoires différents, mais d'un vocabulaire commun.
Oui.
Tu peux nous en dire un peu plus?
Oui, on s'est rapidement rendu compte qu'on utilisait des façons très similaires, finalement, de travailler nos deux instruments, du coup, pour Clément, la batterie, et puis pour moi, le corps. Et que rapidement, on a composé un vocabulaire. Tu vois, justement, on dit plutôt qu'on va aller faire un gig plutôt que de dire qu'on va aller faire un spectacle. Moi, je suis trop contente de dire qu'on va faire un soundcheck pour son instrument et puis pour moi aussi. Et dans l'impro, la même chose. En fait, on a développé un vocabulaire de groove, on appelle ça. Du coup, le groove peut être musical ou le groove peut être dansant. Et on se rejoint, en fait, sur pas mal de mots, en fait, qui touchent chacun de nos mondes à nous. Et c'est ce qui nous aide à composer ensemble, parce qu'on n'a pas la même façon de décrire nos pas ou notre musique. Et c'est sur le vocabulaire qu'on se retrouve.
Moi, je vais rebondir sur ça, sur le fait que du coup, il y a une espèce de cohésion, du coup, dans la façon de communiquer, etc. Du coup, j'ai fait très attention, du coup, aux mots que vous donniez en interview. Et il y a cette phrase, moi, qui m'a marqué. Toi, tu disais, je suis un peu l'alcool, et puis c'est elle l'allumette, et puis vice versa. Sauf que pour qu'il y ait du feu, il faut un combustible. Aujourd'hui, c'est quoi votre combustible?
Je laisse Mélissa répondre.
C'est la question quoi? Il y en a pas. Hein, c'est vraiment.
On parle beaucoup de notre lien, en fait, dont on prend énormément soin, et puis de notre connexion, tout le travail en fait, qu'on fait en amont pour pouvoir ensuite donner ce... Moi, je parle beaucoup de feu sur scène, justement. Et le combustible, en fait, c'est tout le travail qu'on a fait en amont et tout ce que nous, en fait, on porte dans ce projet. Donc, le down, pour nous, c'est, tu vois, c'est la descente, c'est le fait de lâcher prise, c'est le fait de s'abandonner. Et puis, je pense que tout ce qu'on a partagé en amont, ça crée ce combustible-là qu'on balance, en fait, sur le plateau et sur les gens pour qu'on puisse partager le feu ensemble.
Et quand tu parles de partager, parce que toi, tu parlais d'une frustration que tu as eue la première fois où tu as vu des spectacles de Clément. T'attendais dans cette casse à ce que tu puisses casser tout avec le public, etc. Et là, tu parles de connexion avec le public. Est-ce que, parce que pour l'instant, vous êtes vraiment tous les deux, vous êtes connectés, vous faites votre truc sur scène, même s'il y a ce lien avec le public, est-ce que c'est peut-être penser ou imaginer à un moment où du coup il y a vraiment une interaction avec le public, mais vraiment en direct, c'est-à-dire qu'il y a vraiment la réaction du public qui va ajouter quelque chose à votre performance?
Oui, alors effectivement, et je pense que pour moi ça fait aussi un petit peu partie des combustibles des fois le public, et spécifiquement quand on joue dans les festivals de danse, en général c'est quand même assez différent que le public qu'on peut trouver dans les festivals de danse. Et là, typiquement hier soir dans la Halle 5, quand j'ai lancé le dernier rythme de la performance, vraiment là, le public, j'ai vu dans les yeux quoi, qu'ils étaient vraiment chauds et qu'ils voulaient danser et qu'ils auraient pu rester là toute la nuit. Quoi. Et moi, quand je vois ça, ça me donne aussi du feu, ça me donne encore plus envie et ça me connecte aussi encore plus à Mélissa. Et ça me donne envie de pousser ou alors justement de retenir. C'est une belle force, je trouve. Ouais.
Donc on n'est jamais que les deux, en fait. Même si on est que les deux en studio, on convoque pas mal l'imaginaire. Tu vois, on imagine... on imagine les gens visibles, mais aussi les gens invisibles. Il y a beaucoup de choses qu'on convoque pour être avec nous deux. Donc moi, j'imagine qu'on est vraiment nombreux. Moi, je suis avec plein de gens tout le temps. J'ai plein de personnages, plein de gens qui sont avec moi. Clément aussi, il a plein de choses autour. Et le public, c'est la scénographie du show. En fait, c'est... notre show, il n'existe pas sans les gens. Donc c'est la foule, c'est les mouvements de foule. Et pour moi, tout le jeu, c'est d'apparaître et de disparaître de la foule. Et puis toutes les réactions, c'est pour ça qu'on parle de... concert performatif avec de l'impro, en fait, c'est parce qu'on va vraiment réagir en fonction de ce qui se passe sur le moment. Et moi, c'est ce que j'adore dans le show, c'est que ce sera jamais la même chose. Et puis du coup, on s'éclate, on change de costume, on change de scène, on a des scènes différentes dans les halles, à des horaires différents aussi. Et du coup, ça va vraiment dans ce sens-là qu'on se dit, en fait, à chaque fois, c'est un nouvel essai.
Je vais reprendre la main, Du coup, on a dit, vous aviez déjà un spectacle, du coup, hier soir. Deux représentations à chaque fois, même ce soir et encore samedi. Il y a comme tu viens de nous dire, des scènes qui changent, des costumes, tout. Est-ce que c'est pas un peu éprouvant et fatigant pour vous? Comment vous vous êtes préparé à ça pour tenir la route, quoi? Même avec les interviews, en plus, la journée est à enchaîner, donc.
Et on sent déjà la fatigue, mais on a dit qu'on voulait essayer un petit peu d'inverser les journées et qu'on vive la nuit et qu'on dorme le jour, mais on verra si c'est possible.
Ouais, puis ça fait une année maintenant qu'on travaille autour de ce projet. Et puis, on s'est rendu compte, en fait, que c'est pour les deux une performance athlétique. Je me souviens d'un jour, on était dans un festival en Italie, puis on devait enchaîner trois fois. C'était canicule, on jouait dehors. Et puis Clément, il me dit, mais la troisième, c'est beaucoup quand même. Et puis à ce moment, moi, je me suis rendu compte qu'il fallait aussi qu'on s'échange des clés, en fait, de pas avoir ça comme juste un feu de paille, mais qu'on puisse, en fait, donner aussi des choses pour... récupérer, s'échauffer, s'entraîner. Et pour moi, c'est là où je nous vois vraiment comme deux athlètes. Puis je prends vraiment et Clément avec sa batterie et moi dans cet entraînement-là. C'est beaucoup d'entraînement pour pouvoir garder. Et là, on s'est vraiment mis en mode focus trans. Voilà, on est prêt.
Ouais, ok.
Si je ne me trompe pas, vous êtes les seuls à performer de cette façon au trans. Qu'est-ce que ça vous fait?
Premièrement, c'est une chance incroyable d'être programmé au trans. C'est un festival merveilleux avec une programmation extraordinaire et toute l'équipe est adorable. Les gens sont vraiment aux petits soins avec nous. Et en fait, je pense que la particularité de ce projet, c'est que comme il y a quand même une grande part musicale, je pense qu'on n'est pas si différent que les autres groupes, en fait. Et d'ailleurs, quand on avait joué au Kilby, qui est un festival en Suisse, vraiment les autres Ben étaient là, c'est quoi le nom de votre Ben? Et ça me faisait rire parce que Mélissa, elle n'était pas trop forcément habituée à ça dans le milieu de la danse. Et en tout cas, là, je me sens vraiment comme un groupe, quoi, avec Mélissa. Et des fois, on rigole un peu parce qu'on utilise ce vocabulaire, justement, elle aime bien aussi dire qu'on a un gig, dire qu'on va au backstage. Et ça prend. Et puis personnellement, c'était un rêve de gosse, quoi, de jouer ici. Donc je suis très heureux.
Non, vas-y, termine.
Non, je voulais dire que ça me réjouit à fond, en fait, que et dans le milieu musical et dans le milieu de la danse, il peut y avoir des projets qui se croisent et qui se confondent. Puis du coup, en fait, moi, ce que je salue là, c'est aussi la programmation et les programmateurs, en fait, qui nous ont dit, on prend un risque aussi avec nous, du coup. Enfin, on est tous à prendre un risque parce que les gens qui viennent ici viennent écouter de la musique. Du coup, ils proposent quelque chose de différent. Et comme quand on est programmé dans des théâtres de danse, en fait, ils proposent aussi quelque chose de différent. Et du coup, moi, c'est exactement là, en fait, où ça m'intéresse d'être. C'est juste entre deux et en même temps dans les deux endroits. Parce que je pense qu'on peut beaucoup apprendre de chaque expérience et de chaque public aussi, qui sont très différents.
Ouais, c'est un risque qui paye, finalement.
Exact.
Alors, on va pas tarder à vous lâcher parce qu'il est 30. Moi, j'avais juste une dernière question. Vous avez beaucoup parlé du public. Il faut aussi rappeler que votre projet, il est allé très vite. La phase de travail que vous avez commencé, elle a déjà été produite alors même que vous en étiez qu'à la phase de travail, ce qui a donné un peu la forme brute du départ. Et la forme, je suppose qu'elle évolue aussi avec tous les concerts. Et où elle en est, cette évolution, pour terminer?
Du coup, là, les transmusicales, c'est nos derniers, c'est notre dernière fois avec du public, avec cette forme courte qu'on appelait la single version. Et en fait, on est en train de travailler maintenant dans des, on a des résidences dans des théâtres, et on a une première qui était normalement la première attendue en mars 2024 à Lausanne. Et là, c'est la forme longue. Du coup, là, on fait notre full album, pour mars. Et c'était ce qui était prévu à la base, en fait. On présentait une étape de travail pour mars 2024. Et finalement, on a eu quelques belles surprises en cours de parcours. Et du coup, là, on est en train de travailler une forme plus longue de ce projet.
Super. Ça te donne envie?
Eh ben oui. Eh ben, en tout cas, merci à vous deux d'être venus sur le plateau de CELAB.
Merci à vous.
Je vous souhaite une bonne chance.
Merci.
Bonne merde, comme on dit.
On prend.
Break a leg, comme on dit.
On prend.
Vous venez d'écouter l'interview de Dawn sur le 101.1 et on va continuer avec le son Vague Jeune de Babatsuts qui est en feat avec Clément Grain, donc, qui est aussi le batteur de Dawn. D'écouter Vague Jeune de Babatsuts et maintenant on va terminer cette émission avec l'interview de Joe York.
Alors on ne va pas se le cacher, tu es l'une des grosses têtes d'affiche de ce festival mais aussi l'un des chanteurs reggae du Royaume-Uni parmi les plus réputés. Pour faire ton portrait rapidement, ton premier album il est sorti en 2022, Noise and Emptiness, après de nombreux singles et EP, et tu reviens cette année donc avec ton troisième album Hopeless que tu présentes ici aujourd'hui au Transmusical à Rennes. Alors, tu es né dans une famille de musiciens confirmés, puisque ton père est violoniste, ta sœur aime chanter, et tu as aussi des cousins saxophonistes du style jazz. Tu es un artiste multi-casquette, producteur, auteur, compositeur, multi-instrumentiste, mais aussi organisateur de soirées. Alors, je ne vais pas tout lister, mais ta carrière s'est surtout construite par de nombreuses rencontres, notamment avec Ian Perkins. Tu as joué avec de nombreux groupes ou collectifs et tu as côtoyé la scène reggae avec les plus talentueux du Royaume-Uni. Première question, comment ça va ?
Very good.
Très bien, very, très très bien, merci.
Pas trop fatigué ?
I'm quite tired.
Assez fatigué, yeah, un peu la gueule de bois aussi.
Oh. Alors moi personnellement, je me suis rendu à ton concert dans le hall 3 du Parc des Expos à Rennes hier. Il y avait beaucoup de monde, t'as mis vraiment le feu à la salle. Quelles sont, toi, tes premières impressions là, après ce concert ?
Ouais, je me sens si reconnaissant pour l'opportunité. La foule était incroyable, si reconnaissant de faire partie de ce festival prestigieux. Le concert était vraiment sympa. J'étais plutôt anxieux de plaire. J'ai entendu que c'était un public plutôt exigeant à ce festival. Mais ouais, je me suis vraiment amusé.
Alors, on voit dans ta musique que tu mixes plusieurs styles. Hein. En dehors du reggae, on peut retrouver aussi du jazz, un peu de dub. Beaucoup de choses qui sont sûrement dans tes inspirations. Est-ce que, justement, tu pourrais me parler un peu de tes inspirations à toi ?
En fait, j'ai grandi au Royaume-Uni. Il y a une sorte de melting pot de genre, tu vois, notamment une communauté de l'Inde de l'Ouest.
Windrush Generation, the West Indian kind of community, and you know.
Et en fait, tu sais, l'Angleterre est, et ce que je vais dire n'est pas nécessairement une bonne chose, mais l'Angleterre est connue pour voler des choses, s'approprier des bonnes choses. Donc en fait, ouais, les influences en musique sont, par exemple, l'influence soul, qui est plutôt une influence récente, je dirais. Une ville où j'ai grandi, qui s'appelle Wigan, était connue pour le soul. J'ai jamais vraiment compris pourquoi et comment cette petite ville avec des habitants de milieux populaires blancs peut avoir un lien avec la musique américaine noire soul. Je pense que ça a à voir avec les mods dans les années 70 qui ramenaient les disques qui n'avaient pas si bien marché aux États-Unis. Ils allaient les chercher aux docks de Liverpool et les distribuaient un peu partout. Ouais, tu vois, c'est la musique qu'il y a autour de nous, tu vois.
That's around, you know, and yeah. I hope that was an okay answer.
Tu viens du reggae et du sound system, et en gros il y a beaucoup de covers de soul, il y a beaucoup de reprises de soul dans le reggae. Est-ce que c'est par là que tu fais, est-ce que c'est par cette voie que tu fais un album soul actuellement, le fait d'avoir connu les reprises soul?
Ouais, c'est un très bon point en fait. Il y a beaucoup de matériaux recyclés. On a un peu joué avec ce côté-là hier. On a même joué une chanson du film Grease.
We did a song from Grease. And yeah, like, yeah, it's a very, the reggae world in particular.
Le monde du reggae en particulier semble être un endroit sûr pour pouvoir recycler le matériau des autres. Et ça, c'est très important, mais en même temps, avec mon écriture, j'aime aussi créer quelque chose qui m'appartient aussi.
Ouais, parce que ça sonne vraiment comme de la soul des années 50. Est-ce que tu utilises les mêmes machines analogiques pour avoir ce timbre, enfin ce grain et cette vibes dans les prods?
Yeah, it's kind of a hybrid.
Ouais, c'est quelque part un peu hybride. Quand je travaillais avec mon ami Ian des Co-Operators, on avait plus ou moins une configuration analogique avec du matériel hybride.
I have like yeah, hybrid setup, so I work with like.
Dans le studio, je travaille avec des plugins, mais ça passe toujours par une chaîne, notamment le bureau, un préamplificateur API, un émulateur de bande. Donc ouais, j'adore la texture, le son des années 50, 60 et 70.
Alors je vais revenir un peu sur ta performance d'hier. Moi, ce qui m'a surtout marqué, tu vas me dire, c'est un peu t'as une certaine quand même complicité avec les gens qui sont avec toi sur scène, avec ton crew. En plus, là, quand tu parles de ta performance, tu dis nous, c'est vrai que vous avez l'air très très complices.
Je suis ami de longue date avec le guitariste Chip et le DJ Joe. On a travaillé ensemble sur beaucoup de projets variés et on passe beaucoup de temps ensemble. Les chanteurs Eddie et Bee, tous les deux incroyables, ce sont des amis plus récents, des nouveaux membres de ma famille. C'était notre troisième concert pour l'instant, on s'est rencontrés pour la première fois en octobre. C'était franchement intimidant pour moi. J'arrêtais pas de me demander, est-ce que ça va marcher ? Mais dès qu'on s'est retrouvés, je me suis dit, waouh, ça c'est mon équipe.
This is the crew, and I absolutely feel like.
Absolument. D'ailleurs, j'aime pas dire mon nom est Joe York. Je veux toujours dire bonjour. Nous sommes Joe York. Ouais, ils sont incroyables.
They're awesome.
Yeah. Et ta voix, j'ai entendu un freestyle d'il y a 4 ans où tu avais pas la même voix. Du coup, à quel moment tu as commencé à chanter et à travailler avec cette voix de tête?
Yeah, good question. It was kind of a bit accidental, really.
Ouais, très bonne question. En fait, c'était un petit peu accidentel. Avant, je faisais des chœurs, donc les harmonies avec cette voix de tête. Mais un jour, j'étais dans la chambre de mon ami où il avait son studio à l'époque. Il m'a dit, mais pourquoi tu n'essayes pas de faire une chanson entière avec ce style de voix ? Et on a écrit une chanson qui s'appelle Tonight et les gens l'ont vraiment aimée. Donc je me suis dit, oh, je vais en écrire d'autres comme ça. Cela est devenu plus confortable pour moi d'utiliser cette voix. J'ai l'impression d'avoir un meilleur contrôle. Maintenant, j'essaie de réapprendre la voix d'avant pour utiliser les deux, mais c'est difficile.
Est-ce que tu as commencé jeune à chanter dans les chorales, comme c'est le cas de beaucoup d'artistes jamaïcains qui commencent le chant dans les chorales?
As a backing vocalist.
Yeah.
Non,
pas vraiment. Je chante depuis des années, mais pas tant professionnellement. Avant, j'étais dans des groupes de punk pendant assez longtemps. Mais c'est seulement depuis 4 ou 5 ans que j'ai vraiment commencé à prendre ça au sérieux. Je sais que Eddie et Bee, nos choristes, viennent tous les deux d'un milieu gospel. Et c'est pour ça qu'ils sont bien meilleurs que moi. Moi, j'ai pas beaucoup d'expérience en chant en vrai.
Tu as créé ton label Rhyme Steady et tu sors tes albums dessus. Quelle est l'importance pour toi d'avoir ton propre label et as-tu pour but de produire d'autres artistes dessus?
J'ai commencé le label en 2020 pendant le confinement. En fait, je trouvais que ce serait sympa d'avoir une plateforme pour sortir mes musiques et de travailler avec d'autres artistes. J'ai pas travaillé avec tant d'autres artistes, c'est surtout ma musique qui sort sur le label. Mais ouais, c'est plutôt agréable d'avoir le contrôle sur tout. C'est parfois aussi assez difficile de gérer les disques et tout alors que je joue aussi sur scène, mais j'aime beaucoup la liberté que ça m'apporte. Je compte bien travailler avec d'autres artistes, notamment sur mon prochain album. J'aimerais, je pense, impliquer d'autres artistes et peut-être sortir des singles avec d'autres artistes aussi. Mais s'il y a une chose qui restera avec Rhythm Studies, ce sera mes productions.
Alors, tu nous parles beaucoup d'autres artistes. Je crois que tu as fait partie aussi de crew, il me semble, du Alpha Boys School, de la Alpha Boys School jamaïcaine, pardon. Et est-ce que justement ces crews, c'est quelque chose que toi, t'aimerais bien continuer, même pourquoi pas monter ton propre crew pour accompagner d'autres artistes?
Ouais, absolument.
Alors, le Jamaican Alpha Boys School était très intéressant et j'aimerais pouvoir dire que je faisais partie de ce crew. Quand je vivais à Manchester, on se rendait aux Jam Nights, donc des sessions bœuf le mercredi. Des musiciens incroyables de l'Inde de l'Ouest jouaient là-bas. Et certains d'entre eux sont effectivement allés à la célèbre Alpha Boys School. J'aimerais dire que je faisais partie de tout ça, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Travailler avec des crews est vraiment important. Par exemple, Standby Patrol, encore une fois, c'est la famille. J'ai aussi The Cooperators Crew à Bristol. Et ouais, c'est vraiment important de travailler avec d'autres personnes. J'aimerais continuer de collaborer.
I'd like to keep kind of collaborating and stuff, but at the same time, I think it's important not to.
Mais en même temps, je trouve que c'est important de ne pas trop en faire. Et à la fois, je trouve que c'est assez sympa de rester entre familles proches et de ne pas trop s'éparpiller, si vous voyez ce que je veux dire.
Spread myself too thin, if that makes sense.
Et ce soir, tu vas jouer des vinyles à Blindspot, tel un sélecteur reggae. Est-ce que ça t'arrive souvent ou là, c'est vraiment occasionnel?
Non, pas vraiment, ça va être vraiment fun. J'espère que je vais jouer la bonne chanson, savoir utiliser les vinyles, mais ça va être sympa. J'adore les disques, j'adore mixer, mais c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup pratiqué.
Vous
pourrez prendre du temps pour rencontrer les clients.
Yeah, absolutely.
Ouais, carrément, s'il y a des clients.
That will be.
Autre petite question, est-ce que toi t'as déjà été en Jamaïque ou est-ce que t'as pu soit aller là-bas rencontrer des artistes ou juste voyager tout simplement?
Non, je ne suis pas encore allé en Jamaïque. J'ai eu quelques invites, mais j'ai pas encore eu le temps d'y aller. Et ouais, j'ai quelques amis, des artistes en Jamaïque avec qui j'ai souvent des contacts. J'ai travaillé avec des personnes d'origine jamaïcaine qui vivent en Angleterre, dont un artiste qui vit aujourd'hui en Jamaïque. C'est un mec qui s'appelle Guru Nile. Et on chatte via Facebook.
Peut-être avec des artistes comme Johnny Goldfinger ou Peter Yutman.
Is Johnny Goldfinger based in Brooklyn?
Il est basé à Brooklyn. Mais ouais, j'adorerais aller à Brooklyn. Il y a des artistes incroyables. J'aimerais avoir contact avec les Frighteners.
Alors, j'avais encore une autre question, une petite dernière de la part de Yudi qui malheureusement n'a pas pu venir. Si ta musique était un mood, laquelle ce serait?
That's a good question.
C'est une bonne question.
there's a mood. I'm trying to think what the reality.
J'essaie de réfléchir de ce qu'est la réalité et ce que j'aimerais qu'elle soit. Ce sont deux choses différentes.
Mood. I don't know.
J'ai envie de dire mélancolique, mais c'est sûrement pas la bonne réponse. J'ai envie de dire nostalgique, mais je crois que c'est pas la bonne réponse non plus.
Peut-être pour réorienter la question, c'est quoi un peu la petite graine que toi t'ajoutes à ta musique reggae pour en faire vraiment la tienne?
Il y a deux, trois choses que j'essaye de faire. La première, c'est garder mon accent. J'ai un accent du nord de l'Angleterre et j'essaye de le conserver plutôt que de me laisser influencer par l'accent jamaïcain. Essayer d'être le plus honnête possible aussi, chanter de ma propre expérience ou de l'expérience de mes proches. Très influencé par l'expérience britannique. Essayer de ne pas recopier des formules qui existent déjà. Quand je fais une chanson, j'essaye d'ajouter quelque chose de nouveau plutôt que de réutiliser la formule Bob Marley et en faire ma version blanche nulle.
Et bien c'est peut-être ça la réponse en fin de compte, l'authenticité de ta musique.
L'authenticité, oui, ça me plaît.
Well done.
En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accordé du temps et cette interview.
Thank you guys.
Merci les gars, c'est un plaisir.
No question.
Absolute pleasure.
Good luck for everything.
Thanks so much.
Ça a été un plaisir de vous rencontrer et à ce soir.
Yes.
Yeah, for sure.
Definitely.
Big love guys.
Thank you. Big love to you.
Have a nice day.
Vous venez d'écouter l'interview de Joe York et pour se donner une idée de ce que ça donne, on va écouter tout de suite un de ses sons Dreaming. When I was young, my teacher spoke with my mom and asked, is there anything up with your son? He's always staring at the wall, wonder if he's learning. écouter Dreaming de Joe York et je vais laisser Victor terminer cette émission.
Merci beaucoup Tintin, moi j'ai pu mettre les pieds sous la table et la tête dans mon oreiller, c'était très reposant, merci beaucoup encore une fois, je me répète un peu, vous me connaissez. Mais il fallait quand même que je me relève pour faire la fin de cette émission, la conclusion. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout, merci beaucoup à Jérémy de nous avoir fait ce belles interview. Je vous rappelle que nous en aurons quelques-unes d'autres, ça se dit ? Je ne sais pas. On en aura d'autres en tout cas. On en a d'autres dans le frigo à vous faire, à diffuser, ce sera la semaine prochaine très certainement. Et en tout cas, je vous le donne rendez-vous demain pour une émission assez spéciale d'ailleurs quand même, parce qu'on sera en public à la PAM avec la Carène, mais je ne vous en dis pas plus, ça vous donnera envie de venir nous voir en direct live, carrément, à la PAM, toujours à 18h, toujours sur les ondes du 101.6, vous ne pouvez pas vous déplacer, évidemment. Et en tout cas, en attendant, je vous laisse avec la playlist de Vincent, la playlist de Radio U, garantie sans pub. Allez-y, bonne soirée à toutes et à tous, et à demain soir.